tous les auditeurs de Radio Maria. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui s'appelle Vivre sobrement, chemin vers Dieu. Alors, je voudrais commencer par vous saluer parce qu'on ne s'est pas retrouvé depuis Pâques. Alors, comme il est coutume de dire en ce temps pascal, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Donc, nous continuons notre parcours, nous achevons notre parcours que nous avions commencé au mois de septembre. Et nous voici donc au 8e topo. J'espère que vous avez pu tirer profit des exercices proposés sur le site, qu'ils ont nourri votre réflexion et votre action pour la préservation de la création. Voilà, pendant le temps de notre scène ouverte, n'hésitez pas à partager sur la manière dont vous les avez vécues. Ce sera, je pense, enrichissant pour tous les auditeurs. Dans ce quatrième et dernier temps de notre parcours, qui s'appelle « Vivre sobrement », on en est au deuxième volet, donc « Chemin vers Dieu ». Ça nous ramène à l'origine de notre parcours. On était parti de la contemplation de Dieu créateur. Et voilà, comme toujours, celui qui est la source de tout est également le terme et l'achèvement de tout. Et c'est ce qui d'ailleurs nous rappelle le marquage du cierge pascal dans la veillée pascale que nous avons vécu récemment. Dieu alpha et oméga. Et donc le temps du don qui occupe ce quatrième temps, ce vivre sobrement, est toujours circulaire. Une fois qu'on a reçu le don, il y a nécessairement un retour. Et donc c'est ce qu'on va creuser, intérioriser aujourd'hui. Donc dans cette mission, on verra que l'enjeu de la sobriété, qu'on avait commencé à aborder la dernière fois, dépasse le domaine anthropologique, ça c'était la dernière fois, chemin de liberté, donc ce qui est autour de l'homme, et que la sobriété va revêtir une dimension carrément théologique. On achèvera ce parcours par une synthèse des 8 topos, et puis du mode de vie que nous sommes appelés à adopter après avoir entendu la bonne nouvelle de l'Église sur l'écologie. Donc, premier point, la perspective théologique de la sobriété, c'est le dépouillement. Première partie, et donc avant de parler de dépouillement, on va commencer par le commencement en parlant de ce dont il faut se dépouiller. Et donc, on va regarder, comme on l'a fait un certain nombre de fois, la doctrine sociale de l'Église et son concept son concept de destination universelle des biens. Je précise que comme la dernière fois, ce topo sur la destination universelle des biens est largement inspiré du parcours Zachée. Et voilà, je vous renouvelle mon invitation à le suivre, voire à le lancer s'il n'existe pas encore dans votre ville. Alors, donc de quoi est-ce qu'il faut se dépouiller? Pourquoi est-ce qu'on a des biens à notre disposition? Et bien, tout simplement parce qu'on n'est pas des purs esprits, mais on est des terreux, des glaiseux, c'est la signification du nom Adam. Et donc les biens, la propriété, c'est indispensable pour nous relier à la terre, pour nous relier à la création. Dans un précédent topo, on avait défini le travail comme une participation à l'œuvre de création. Alors comme on n'est pas tous poètes, philosophes à la mode de Socrate ou chanteurs a cappella, on a bien besoin d'objets pour participer de manière effective à la création. Les biens sont nécessaires pour le déroulement normal de notre vie. La doctrine sociale de l'Église au numéro 171 le précise. La personne ne peut pas se passer des biens matériels qui répondent à ses besoins primaires et constituent les conditions de base de son existence. Si on va plus loin, pourquoi des biens? On constate que notre relation aux biens donnés et aux biens qui passent est révélatrice de notre relation à Dieu et de notre relation aux choses qui ne passent pas. Donc on peut voir également les biens comme des réalités visibles et concrètes qui nous aident à traduire notre relation à l'invisible. Donc pourquoi est-ce qu'on a des biens? C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ces biens? C'est la doctrine sociale qui l'explique avec la destination universelle des biens. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un des principes forts de la doctrine sociale de l'Église qui découle directement du bien commun et qui signifie que les biens ne sont pas donnés pour eux-mêmes, mais pour le bien de tous. Et en particulier, elle dit que la propriété privée la doctrine sociale parle sur la propriété privée et dit qu'elle est une condition de responsabilité dans la création. Donc la doctrine sociale de l'Église s'oppose bien au collectivisme. C'est essentiel d'avoir ça en tête parce que chez les écolos un peu idéalistes et parfois même chez les chrétiens, on peut avoir tendance à diaboliser la propriété privée. Ce qu'il faut bien faire, c'est de distinguer la propriété privée et la propriété privante. La propriété privée parce que j'ai le droit d'avoir quelque chose qui m'appartient, et la propriété privante qui est une propriété qui m'enferme sur moi et qui est un usage non ajusté des biens qui ne sert qu'à moi et pas à la relation qu'il crée, que c'est bien créé avec, avec le reste de la création, les autres, Dieu, ou la création elle-même. Alors, quel juste usage de la propriété? Alors, en théorie, j'ai mis en théorie, l'économie sert à répartir les biens et doit veiller à ce que chacun ait le nécessaire pour vivre. Alors, comme on a déjà vu dans un topo sur les systèmes économiques, ben voilà, c'est biaisé parce qu'aujourd'hui, et dans l'économie du péché originel, on va dire, c'est le profit qui passe en premier. Et donc, tout l'enjeu de la doctrine de la destination universelle des biens, c'est bien d'ajuster son usage des biens. Et on va voir dans une deuxième partie en quoi est-ce que l'Écriture nous aide à ajuster notre usage des biens. On avait vu la dernière fois que l'Écriture recelait de bons conseils du Seigneur pour grandir en liberté par la sobriété, ancrée dans une confiance en lui. Et aujourd'hui, donc on a introduit la notion de dépouillement, qui est vraiment portée par la doctrine sociale de l'Église, où on voit que la sobriété, c'est plus une simple, entre guillemets, une simple forme de purification individuelle ou collective, mais c'est bien une condition de vie évangélique à laquelle tout chrétien est appelé. Alors tout d'abord, il s'agit de retrouver une condition de créature. François nous indique vraiment la marche à suivre dans la date aussi, dans la droite ligne de ce qu'on développe depuis le début du parcours, avec la nécessité de retrouver l'harmonie des quatre relations originelles, parce qu'il explique au numéro 12 que si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection jailliront naturellement. Voilà, si on retrouve notre condition de créature, alors la sobriété jaillira, et la sobriété heureuse, bien entendu. Le Christ ne dit évidemment pas autre chose, en particulier dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, dans le serment sur la montagne, il nous invite à nous remettre entre les mains du Père pour être sûr de manquer de rien. C'est le texte assez célèbre, hein, que je vais vous lire maintenant. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Donc Jésus nous enseigne deux choses. La première, qu'il est nécessaire et qu'il est bon de se dépouiller. Voilà, qui est quelque chose qui est bon à entendre. Et la deuxième, c'est que la sobriété, c'est pas seulement se dépouiller, enlever ce qu'on a en superflu, c'est pour d'abord faire confiance. C'est un acte de confiance qui demande un effort, mais qui est un effort gratifiant. Et Jésus nous dit, ben voilà, le vrai bonheur, c'est de savoir découvrir toute la richesse du peu et de comprendre qu'un cœur simple à son image est bien plus resplendissant. Jésus revient sur le dépouillement dans un deuxième passage, qu'on va voir juste après, qui nous explique que se dépouiller, c'est aussi une condition pour se lancer sur le chemin vers Dieu. Hein, c'est le titre du topo. Et donc, pour se lancer sur ce chemin, bah, il faut faire le premier pas. Et le premier pas, et bah, comme toujours, c'est celui qui coûte. Et dans l'Écriture, on voit que le premier pas est toujours un pas de dépouillement. Par exemple, si on prend le livre de l'Exode, on l'avait déjà cité la dernière fois, l'Exode, qui est le grand livre du dépouillement, en quelque sorte. Il commence justement par cette épreuve du grand dépouillement, parce que c'est 40 ans au désert, c'est pas rien, avant de pouvoir entrer dans la félicité de la terre promise. Il y a quelque chose de purifiant, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et avant cette épreuve initiatique, il y a ce commandement du Seigneur au chapitre 12 qui est formel. C'est « Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. La ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main, eh ben on rentre dans cette logique du dépouillement. Et en rentrant dans cette logique du dépouillement, on se rend disponible à l'appel du Seigneur à se mettre en route sur un chemin vers lui, vers la terre promise. Et on commence pour ça par se désencombrer de tout ce qui risque de nous pénaliser dans cette marche un peu sportive. Ah oui, si les Hébreux étaient partis avec les marmites de viande en fonte des Égyptiens ou avec un stock de briques, en se disant, bah tiens, on va faire un truc dans le désert où on va d'ores et déjà préparer nos constructions, bah ce serait sans doute pas allé très très loin. Voilà, donc Ce petit exemple nous montre bien que pour se lancer sur le chemin vers Dieu, il est indispensable d'identifier le juste nécessaire, à savoir bah, la ceinture, les sandales, le bâton, et pas les marmites, et d'identifier deux types de propriétés, les propriétés utiles et les propriétés futiles. C'est ce que nous rappelle Luc au chapitre 12 de son évangile, où Jésus dit: Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mite ne détruit pas. Voilà, fondamentalement, c'est se poser la question: de quoi ai-je besoin pour vivre? Est-ce que je suis capable de me détacher des biens qui sont présents dans ma maison que je n'ai pas utilisés depuis un an? Est-ce que je suis. Enfin, par exemple, est-ce que les vêtements, les chaussures que je n'ai pas portées, les ustensiles électroménagers qui me semblent indispensables mais en fait dont je ne me sers pas du tout, est-ce que je suis capable de les donner, de les vendre, hein, pourquoi pas? Est-ce que je suis capable de m'en séparer? Alors, c'est vraiment un exercice qu'on peut faire à la maison. C'est assez crucifiant, mais c'est libérant. Ça met vraiment les choses matérielles à leur juste place. De quoi ai-je besoin pour vivre? Et le dépouillement comme porte d'entrée, c'est tout le sens de l'évangile du jeune homme riche. Alors, il est dans plusieurs évangiles, mais par exemple en Marc 10, voilà, je vous rappelle la situation. C'est un jeune homme épris d'idéal qui a compris que Jésus avait quelque chose de particulier en lien avec l'éternité. Et donc, il va vers lui. Et Jésus, en retour, lui demande de se dépouiller pour le suivre. Et c'est là que le bât blesse, parce que notre homme s'en va tout penaud, il n'a pas su se détacher de ses biens. Et Jésus termine ce passage par une comparaison assez célèbre et qui est souvent mal comprise, à savoir, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, une interprétation juste, on va dire, peut provenir de la compréhension de ce qu'est le trou de l'aiguille, à savoir la porte de l'aiguille, qui était une petite porte dans les remparts de Jérusalem. Et pour la franchir à une époque où on voyageait en chameau parce que le pétrole n'avait pas encore remplacé l'attraction animale du fait de sa formidable concentration en énergie, il fallait que les chameaux ou les dromadaires débattent, c'est-à-dire qu'ils se mettent à genoux pour se délester de leur cargaison et qu'ils puissent passer. Et donc, ce que veut dire Jésus à la lumière de ce qu'il vient de vivre avec ce jeune homme riche, bah, c'est qu'un riche qui refuse de se dépouiller de son superflu, de ses relations mal ajustées au bien, ne réussira pas à passer la porte étroite et à rentrer dans le royaume de Dieu. Et en sachant qu'un riche n'est pas forcément quelqu'un qui a de grands biens, comme c'était le cas de ce jeune homme, le riche, c'est celui qui refuse ou qui n'arrive pas à se dépouiller de son superflu. Et si on va encore plus loin, donc là on a dit que c'était une condition pour la sobriété est une condition pour se lancer sur le chemin vers Dieu. Et en fait, si on va plus loin, on se rend compte que Dieu lui-même est dépouillé. Si on lit saint Paul dans le Cantique aux Philippiens, on se rend compte que bah, se dépouiller, c'est rentrer dans la démarche de Dieu lui-même qui a osé se dépouiller de sa gloire. Si je vous lis donc le fameux Cantique aux Philippiens, qui est d'une puissance que je trouve extraordinaire, le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Dans ce texte magnifique, on a là à la fois la preuve du dépouillement juste, à savoir la charité, et on a également, dire, la récompense du dépouillement, à savoir le royaume de Dieu et la gloire de Dieu le Père. Alors, maintenant qu'on a décortiqué un peu ce que c'était le dépouillement, on va dans un deuxième temps regarder les enjeux du dépouillement, en particulier ben, ce que le dépouillement n'est pas, et ce qu'il les conditions et ce qu'il produit. Nous étions donc dans ce huitième parcours, la sobriété, chemin vers Dieu. Dans un premier temps, nous avons regardé la perspective théologique de la sobriété qui est le dépouillement. Et là, on va un peu rentrer dans les détails en regardant ce que le dépouillement nous permet d'éviter, et puis les conditions pour que ce dépouillement soit juste et donc heureux. Alors tout d'abord, des écueils à éviter. La sobriété, elle nous aide à nous libérer de conduites dangereuses qui peuvent dégénérer en tentation, voire en péché. Et donc, elle nous aide au moins à lutter contre les quatre travers suivants: la réduction à l'avoir, l'envie, la peur de manquer et les achats compulsifs thérapeutiques. Premièrement, la réduction à l'avoir. Eh bien, c'est dire je suis parce que je possède et je mesure la qualité de mon être à la quantité ou à la qualité des biens que je possède. C'est flagrant de constater que bien souvent la voiture dit quelque chose de moi, de ce que je suis, et en particulier de la taille de mon ego. Je suis frappé en constatant que certains, que dans l'entreprise où je travaille, je repère souvent, on va dire, je repère les cathos en voyant qu'ils viennent dans une voiture qui a 10, parfois 15 ans, qui est pas rutilante. Il y a une forme de dépouillement, alors qu'à côté, on a des gens qui sont parfois moins bien payés, mais qui ont des grosses voitures, qui font un bon gros bruit de moteur, avec et toutes bien, bien polies. Et je me dis, bah, ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans le fait que bah, ces quelques cathos que je repère là, voilà, ils s'encombrent pas d'une grosse voiture qui flatte leur ego. Donc ça, c'est un premier point sur le fait que manifestement, il y a certains biens matériels qui nous privent de ce qu'on peut être, de la qualité de notre être. Mais il ne faudrait pas passer à côté d'un phénomène qui est beaucoup plus pervers et qui met l'humilité à l'épreuve, parce que c'est pas forcément, l'orgueil ne vient pas forcément de ce qu'on possède, un gros et bel objet qu'on possède. Je me rappelle d'un prêtre intellectuel, professeur de philosophie, de théologie, qui disait: moi, quand les gens se jalousent pour des histoires de grosses voitures, je hausse les épaules. Mais quand je parle avec des collègues, qu'un tel m'annonce qu'il a publié dans une revue érudite, quand on compare les universités dans lesquelles on enseigne, ah là, je me rends compte que quelque chose en moi refuse de se dépouiller. Et voilà, même si ce n'est pas un bien matériel, c'est au fond quelque chose auquel je suis attaché et qui m'empêche d'avancer vers Dieu. Et voilà, c'est la triste condition de l'homme marquée par le péché originel. Parce que par le péché, notre relation au bien n'est pas ajustée. Et justement, c'est ce que le dépouillement vise à guérir. Deuxième écueil, qui est l'envie, à savoir réduire l'autre à ce que je n'ai pas. C'est le pendant du point précédent. Si mon voisin possède et que moi je ne possède pas, alors je crois que son être est d'une qualité supérieure et que mon être est d'une qualité inférieure. Et donc, éventuellement, je le jalouse. Et de là découlent les vices proscrits par le décalogue: tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Troisième écueil, qui est la peur de manquer. Voilà, c'est frappant de constater cet excès pendant le confinement ou à l'occasion des récentes pénuries alimentaires comme l'huile ou la moutarde. On en revient à la parabole des oiseaux et des lys des champs. Voilà, pour être sûr de ne manquer de rien, bah, il s'agit simplement de se mettre dans les mains du Seigneur et de croire que dans nos épreuves, il est avec nous. Et puis, dernier écueil, les achats compulsifs thérapeutiques, c'est-à-dire je cède, pardon, aux penchants consuméristes pour me consoler d'une journée difficile, d'une mauvaise passe dans ma vie. Ah, ça fait du bien de se sentir maître de quelque chose, de sentir que je peux consommer. Ça fait du bien sur le moment, mais en fait, on se rend compte que c'est vide, que ça ne rend pas heureux, et donc ça démontre encore une fois une relation au bien qui est mal ajustée. Voilà, on a vu les écueils, maintenant voyons les conditions qui font qu'une sobriété, que le dépouillement et donc la sobriété peut être ajustée et donc heureuse. Ma première chose, c'est la charité, comme on l'a signalé tout à l'heure, hein, comme saint Paul nous le rappelle dans le chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens. Si la sobriété n'est pas orientée par la charité, alors elle est vaine, et comme de l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Et donc c'est vraiment le critère de discernement prioritaire à propos des actions de sobriété, du dépouillement qu'on va mener. Voilà, je vais vendre ma voiture pour me déplacer à vélo. Est-ce que ça me mène à un plus grand amour du prochain, de Dieu, de la création, et une meilleure relation à moi-même? Est-ce que la charité guide mes pas? Deuxième condition, ou en tout cas marqueur du fait que la sobriété est ajustée, c'est la joie. Comme le dit saint Jean Bosco, que j'aime beaucoup, un saint triste est un triste saint. La sobriété, elle a pour fruit la joie parce qu'elle libère, elle allège, elle simplifie. Alors, Joie ne veut pas dire forcément sentiment d'allégresse, mais en tout cas, c'est une certitude profonde d'être à sa place. Et donc, si des actions de dépouillement, si mon jeûne mène à avoir une phase de carême, pour reprendre l'expression du pape François, alors c'est que quelque chose n'est pas ajusté et que mes actions seront non pas abandonnées, mais à reprendre. Voilà, j'ai choisi de vendre ma voiture pour acheter un vélo, mais je me rends compte que quelque chose n'est pas ajusté parce que, voilà, pour telle ou telle raison, voilà, je vais peut-être reprendre légèrement mon action pour me mettre dans la ligne de la charité et de la joie. Pour terminer cette deuxième partie sur les écueils et les conditions de la sobriété, quelques pistes de réflexion. Est-ce que je suis conscient que les biens sont un don de Dieu pour poursuivre sa création? Ou alors est-ce que je les méprise? Dans quelle mesure est-ce que mes biens servent le bien commun? Est-ce qu'ils participent à la création? Et inversement, dans quelle mesure est-ce qu'ils sont un obstacle? Est-ce que j'arrive à identifier des objets que j'utilise souvent? Est-ce que j'arrive à identifier ceux que j'utilise rarement? Est-ce que j'arrive en parallèle à identifier ceux qui sont utiles, ceux qui sont futiles? Est-ce que j'arrive à identifier ma propriété privée, quelque chose auquel je peux prétendre, et la propriété privante, c'est-à-dire les biens qui coupent les relations au monde et à Dieu? Et est-ce que ces objets-là que j'ai triés, avec les critères que je viens d'énoncer, est-ce que je suis prêt à les vendre ou à les donner? Est-ce que, comme dit dans l'Évangile, j'entasse dans mon grenier par peur de manquer? Et si oui, comment est-ce que je peux me libérer de cette peur de manquer? Alors, pour la troisième partie de cette émission, comme promis, on va faire une synthèse assez rapide de ce parcours. Dans un premier temps, on va résumer la ligne directrice du parcours en reprenant très rapidement chacun des 8 points. Et puis, terminer en regardant toutes les petites rubriques Laudato si au quotidien qu'on a parcouru ces derniers temps. Et de voilà, maintenant, que pouvons-nous faire pour vivre suivant la bonne nouvelle de l'Église concernant l'écologie? Donc, premièrement, la ligne directrice de notre parcours. Alors, je vous rappelle qu'il était divisé en 4 temps, qui disait que le chemin de la conversion écologique, ralentir, contempler, partager, vivre sobrement. Donc d'abord ralentir, parce que pour démarrer ce chemin, il est nécessaire de prendre du temps pour ralentir le rythme trépidant de la vie du monde. Dans un premier topo, le temps de la création. Donc ralentir pour être en mesure de recevoir le don de la création, et face à elle, de prendre du recul et de se poser les bonnes questions à son sujet. Qui a créé l'univers? Que fait l'homme dans tout ça? Et donc pour entrer dans une écologie ajustée, il faut reconnaître que tout a été créé et voulu par Dieu, l'homme étant placé à son sommet en tant que gardien, protecteur et continuateur de l'œuvre de Dieu. Dans le deuxième topo, le temps de la rencontre, on s'est rendu compte que ralentir, ça permettait également d'accueillir le monde de manière plus globale et d'identifier les relations qui nous lient à ce monde, à cette création, à savoir les relations à Dieu, à soi-même, aux autres et bien entendu à la création. Et donc ralentir permet aussi d'identifier comment le péché originel a blessé ces relations fondamentales et comment la grâce peut les guérir. Une fois que le moteur est au ralenti, qu'il ne fait plus tant de bruit, on est en mesure de contempler ce qui a été reçu. Donc la deuxième étape du parcours en 2 topos. Troisième topo, à l'image de Dieu, contempler à l'image de Dieu, parce que quand on prend le temps de contempler la création, la première chose qui frappe est que la Bible nous enseigne que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et donc conséquence immédiate, puisque Dieu crée, l'homme est appelé lui aussi à créer. Ce qui lui donne une dignité immense de continuateur de l'œuvre de Dieu. Et donc la création inachevée nous est confiée, ce qui confère au travail, dans son acception assez large, toute son importance. Ce n'est pas juste un gagne-pain. Et à l'image de Jésus travailleur, le travail est un mode essentiel de contemplation. Contempler également, quatrième topo, Dieu à l'œuvre dans ma vie, parce que la dimension tout à fait originale du christianisme est de reconnaître que Dieu est proche. Et de ce fait, on peut contempler qu'il agit concrètement dans nos vies. Cette étape nous a aidé à prendre du recul. Quand les montagnes s'effondreraient, je serai à vos côtés. Le GIEC nous dit que le monde va très mal. Les experts nous disent que le monde va très mal. La situation semble désespérée. Le réchauffement d'ici 2050 semble catastrophique. Mais le monde est sauvé par la croix de Jésus-Christ. Et donc, je dois agir pour la préservation de la création comme si tout dépendait de moi et prier comme si tout dépendait de Dieu. Dans une troisième étape, on bascule du temps de la réception du don et de son intériorisation au temps de l'action, où on peut changer notre mode de vie pour nous conformer davantage à l'évangile sur le plan écologique. Et donc cette troisième étape, c'est partager. Le cinquième topo qui s'intitulait Tous frères, parce qu'on est créé par un même père habitant d'une maison commune, et on reconnaît que l'être humain est appelé à vivre une fraternité universelle. Et comme le répète Laudato Si, tout est lié. Et donc l'option préférentielle pour les pauvres est indissociable de l'action écologique. Surtout quand on sait que les plus pauvres sont en première ligne face au changement climatique. Et quand on prend conscience des inégalités dans le partage des ressources. Partager ensuite pour le bien commun, sixième topo, à savoir que la finalité du partage n'est pas une espèce d'idéal humaniste, mais la recherche du bien commun. À savoir, je vous rappelle la définition, l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun qui n'est pas à confondre avec l'intérêt général. Et donc on a vu que cette notion, c'était une des fines pointes de Laudato Si, dans la droite ligne d'ailleurs de toute la doctrine sociale, hein. C'est-à-dire que l'écologie intégrale y trouve tout son sens. Et qu'inversement, une doctrine écologique dont le bien commun n'est pas au centre a quelque chose de mal ajusté. Et dernière étape, quatrième étape, vivre sobrement. Encore une fois, en deux topos, si on passe de la relation aux autres partagée à la relation à soi, la vertu associée dans l'écologie intégrale, c'est la sobriété. Tout d'abord, chemin de liberté, la dernière fois, le septième topo. La sobriété qui est un moyen de nous libérer des mirages de la société d'hyperconsommation, et puis en même temps un mode de vie simple et joyeux, adopté par ceux qui ont vécu une véritable conversion écologique. Et cette sobriété est un excellent remède à la convoitise issue du péché originel, qui nous fait désirer toujours plus, et surtout surtout ce qui ne nous rend pas heureux. Et puis aujourd'hui, huitième topo, chemin vers Dieu, où nous avons vu que le dépouillement était une condition nécessaire pour suivre Dieu, qu'elle était à la fois que Dieu lui-même était dépouillement, donc en se dépouillant on est à l'image de Dieu, et que les conditions pour vivre une sobriété ajustée et donc heureuse étaient la charité et la joie. Donc maintenant qu'on a entendu tout ça, maintenant que faire? Une fois qu'on a entendu cette parole, ces aspects théoriques, on va dire, du parcours, qu'on a été touché par la gravité de ce qui se passe dans notre maison commune, alors on se demande comment réagir concrètement, et un peu comme les Juifs qui ont écouté le discours de Pierre à la Pentecôte, je cite, les auditeurs furent touchés au cœur, ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que devons-nous faire? Alors voilà, chers auditeurs de Radio Maria, vous me dites peut-être, frères, que devons-nous faire? Alors, dans les rubriques mensuelles Laudato Si au quotidien, on a pu voir comment chacun des points abordés dans les topos, au début des topos, avait des répercussions immédiates dans le quotidien. Tout d'abord, ralentir en reconsidérant la place des transports, qui modèle notre rapport au temps et à l'espace, qui représente en gros, on n'est pas au pourcent près, mais 25% des émissions de CO2 au niveau mondial. Et qu'est-ce que moi je peux choisir de faire? Ben, limiter au strict minimum l'utilisation de la voiture, bannir l'avion, privilégier les circuits courts d'approvisionnement. Une fausse bonne idée, la voiture électrique. Contempler, respecter amoureusement le repos dominical, qui permet de ne pas confondre notre être avec notre travail, et de prendre un recul, signe de liberté, puis qu'il y a également un repos qui nous permet d'enraciner la conversion écologique dans une dimension eucharistique, une dimension donnée parce que reçue. Et puis qui permet aussi d'aller vers nos frères et de contempler de manière plus assidue la création. Voilà toute l'importance du repos dominical qu'on avait médité au cours de ce parcours. Contempler également Dieu à l'œuvre dans mon quotidien le plus banal, à savoir la manière dont je mange, la manière dont je m'alimente. L'agriculture représente environ, encore une fois, 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, sans compter le transport jusqu'au supermarché. Et donc moi, ce que je peux faire de mon côté pour faire avancer les choses, c'est manger bio, local, de saison, en privilégiant pardon, les achats directs chez les producteurs ou les artisans de bouche, et diminuer sa consommation de viande. La fausse bonne idée, même si c'est mieux que rien, le bio de supermarché. Partager, eh ben en refondant le système économique actuel qui a pour but le service de l'argent, avec l'aide écrasante de la technique, hein, ce que François résume dans le paradigme technocratique. Bah, s'il y a deux choses à retenir de la date aussi, c'est paradigme technocratique, et deuxième expression, c'est tout est lié. Les deux vraiment choses, les deux expressions marquantes de la date aussi. Voilà, le paradigme technocratique qui écrase l'homme, qui détruit la création. Donc ce que moi je peux choisir de faire, à la main des pouvoirs publics et des entreprises, comme pour l'alimentation, je peux privilégier les circuits courts, je peux favoriser, maximiser les achats de seconde main, adhérer à des structures alternatives comme des supermarchés coopératifs, des banques coopératives. Partager enfin le bien commun qui est l'énergie, 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'énergie qui est à la base de notre économie, qui fonde toute notre économie et qui dessine le monde tel qu'on la connaît aujourd'hui. Et on avait en particulier abordé le problème des énergies renouvelables, à savoir que la problématique de l'énergie ne se résoudrait que dans un chemin de sobriété. Voilà, le monde des énergies renouvelables qui nous attend et duquel on vient, hein, les moulins à vent et la traction animale, sera radicalement différent de l'abondance énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est pas une espèce de grande idée philosophique ou d'idéologie, c'est juste de la physique. Et enfin, le topo de la dernière fois, vivre sobrement, en diminuant notre consommation de manière plus générale encore que l'énergie. Un bon moyen pour y arriver, c'est la démarche zéro déchet que je vous avais présentée en détail, qui permet de s'attaquer à la partie émergée de l'iceberg de l'hyperconsommation et qui se décline dans toutes les facettes de la vie pour nous faire rentrer dans un mode de vie vraiment différent, plus sobre et plus joyeux. Donc voilà, résumé en 5-10 minutes, tous les 8 étapes du parcours qu'on a vécu depuis septembre. Je vais conclure le parcours ensuite. Bonjour Monique.
Bonjour monsieur, merci infiniment pour cette merveilleuse petite conférence, parce que franchement, ce que vous avez dit m'a beaucoup touchée, et je pense qu'elle a dû beaucoup toucher un nombre d'auditeurs importants. C'est vrai que lorsque nous avons investi une certaine affectivité dans certains objets, il nous est difficile de les donner. Par exemple, moi j'ai perdu mes parents et lorsque je me suis dit il faut donner leurs vêtements, j'ai eu un instant de recul parce que la seule chose en dehors de Dieu, des prières, Marie, etc., de façon tangible, c'était leurs vêtements que je touchais, etc. Donc c'est vrai que il y a ce côté-là, mais il y a l'autre côté. Dont vous avez parlé, moi je donne beaucoup, voilà, tout ce que je peux, je le donne, et l'affection aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est important de donner de l'affection. Lorsque, par exemple, il y a le mariadon, moi je pense que lorsque ne pouvons plus, pour des raisons différentes, nous rendre à la messe parce qu'il n'y a plus de prêtre, etc., ou parce que nous sommes malades et que nous ne pouvons pas nous déplacer, nous n'avons personne pour nous y conduire, eh bien, il faut mettre de côté tout ce que nous devions mettre comme argent, remettre à la quête. Ensuite, Radio Maria, comme vous ce matin, nous offre des conférences, mais d'un niveau tellement important pour le cœur, pour l'âme, et pour sa propre intelligence. Eh bien, si nous devions payer ces conférences-là, moi, avant d'être reléguée à la campagne pour raison de santé, dans les accidents, j'aimais beaucoup les conférences, mais les conférences se paient. Et si vous mettez l'argent de côté de tous ces prix-là, les conférences, les quêtes auxquelles nous ne pouvons plus participer, mais nous devons vraiment faire une charité beaucoup plus grande que celle que nous faisons. Et ça, c'est vrai, ce que vous avez dit, tout est particulièrement vrai. Et pardonnez, l'histoire de patienter, c'est aimer, voilà, dans la lettre de Saint Paul, c'est vraiment magnifique. Prends patience, ne jalouse pas, n'entretiens pas la rancune, mets la paix dans la vérité, excuse tout et endure tout. Bon, c'est ça. En fait, et c'est vrai qu'il est facile de le dire, mais il est moins facile de l'appliquer. Donc, je pense que il faudrait que chacun de nous, à commencer par moi, à propos des vêtements des parents, eh bien, il faut donner, et c'est vrai, se détacher, parce que le matériel, vous avez tout à fait bien fait de dire, Jésus sur la croix, c'est défait de tout, il ne restait plus que son corps lacéré. Ben, c'est à cela, moi, que je vais penser chaque jour. Voilà, je vous remercie infiniment, monsieur, parce que votre intervention a été d'une utilité vraiment très, très importante. Merci beaucoup, monsieur.
Et merci Monique et merci de votre témoignage. Très bien, alors ce qui me va me laisser
Oui.
juste le temps de conclure donc notre parcours. Voilà, il y a urgence. Il y a urgence parce que le GIEC nous donne dans son dernier rapport 3 ans pour changer de mode de vie. Alors 3 ans, c'est le temps du ministère du Christ. Et face à cette urgence à vivre comme une épreuve pas voulue, mais en tout cas permise par Dieu. Eh ben, la nécessité s'impose vraiment de vivre l'écologie comme une partie intégrante de notre foi. Notre évêque de Fréjus-Toulon, Monseigneur Ray, a publié il y a 11 ans un livre qui s'appelle « Peut-on être catho et écolo ?» Laudato aussi pose la question de manière différente. Il nous dit « Aujourd'hui, peut-on encore être catho sans être écolo ?» Ce qui est présent au numéro 217. La conversion écologique implique de laisser jaillir toutes les conséquences de sa rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. Alors, chers auditeurs, j'espère que vous avez été touchés par ce parcours. J'espère que vous aurez été nourris. J'espère que vous aurez pris des décisions, que vous serez passé à l'action résolument. Pour autant, l'année n'est pas terminée, donc il reste un rendez-vous au mois de juin, pendant lequel nous rencontrerons un grand témoin de l'écologie intégrale ici dans le Var. Et d'ici là, je vous encourage à suivre les 3 derniers jours du cahier d'exercice, si les exercices vous ont porté. Bonne semaine dans la joie du ressuscité, et puis à dans un mois.